Masha Fogel, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je voudrais commencer par, avant évidemment qu'on parle des questions de la guerre et de la manière dont elle est perçue dans le monde ultra-orthodoxe antisioniste, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de votre rapport à ce monde-là et de votre expertise en réalité.
Alors, en fait, je connais ce monde-là, non pas vraiment comme experte, mais plutôt simplement comme yiddishophone. C'est un monde, le monde chassidique non sioniste et largement yiddishophone, surtout autour du grand groupe chassidique Satmar, avec toutes les petits groupes chassidiques qui lui sont liés. Voilà, c'est un monde largement yiddishophone. Et quand on veut parler yiddish de façon quotidienne, avec des gens dont c'est la langue maternelle, voire parfois la langue unique, eh bien, ce sont les interlocuteurs privilégiés. Donc voilà, c'est en tant que yiddishophone et personne souhaitant parler en yiddish que je connais ce monde-là, à la fois à travers leurs journaux et puis à travers des vraies personnes.
Et pourquoi c'est le monde yiddishophone antisioniste spécifiquement qui vous intéresse ?
C'est un concours de circonstances, si vous voulez. C'est parce que il se trouve que c'est là que se trouvent les interlocuteurs de cette langue. C'est vrai que dans le monde Chabad, qui n'est pas antisioniste, même s'il n'est pas sioniste non plus, on trouve aussi des interlocuteurs yiddish. Et quand j'en rencontre, je suis très heureuse de parler avec eux aussi. Mais le groupe qui a développé des organes de presse importants, le groupe qui a vraiment mis le yiddish au cœur de son système, il se trouve que c'est le groupe chassidique Satmar qui est effectivement passionniste et il y a sûrement un lien politique entre effectivement cette opposition au sionisme et la volonté farouche de conserver une langue juive qui ne soit pas l'hébreu moderne. Ça, c'est possible.
Alors, beaucoup des membres de ce groupe Satmar vivent en Israël, plus particulièrement à Jérusalem. Alors, comment on peut être israélien, vivre à Jérusalem et être en même temps antisioniste ?
C'est une question vraiment très intéressante. Les Satmar habitent quand même majoritairement en dehors d'Israël, principalement aux États-Unis. Mm-hmm. C'est vrai que certains habitent en Israël, à Bnei Brak, à Jérusalem, parce que l'histoire les y a placés, comme beaucoup de juifs. Mais la particularité du groupe Satmar, contrairement à d'autres groupes hassidiques, c'est que ce groupe-là ne participe pas aux élections en Israël et ne touche pas de financement de l'État, même d'allocations familiales, etc. C'est-à-dire que c'est un groupe qui ne souhaite pas avoir de lien ni politique ni d'aide économique avec l'État d'Israël. Donc c'est quand même donc ça les place dans une position aussi très différente par rapport à d'autres groupes chassidiques orthodoxes
qui ne sont pas forcément par exemple.
Exactement, ou même comme les chassidim de Gour. En fait, tous les groupes chassidiques qui appartiennent à l'ensemble Agouda, qui votent et qui ont des places au Parlement, par exemple.
Alors, comment le 7 octobre a été perçu par les Satmar ?
Ça a été une réaction très semblable, je crois, à celle de la majorité des juifs dans le monde entier, c'est-à-dire un choc immense, une très grande tristesse, de l'horreur, de la peur. Le fait de voir des massacres de juifs, aussi bien les personnes avec lesquelles j'ai parlé que les journaux que j'ai pu lire ont témoigné d'un bouleversement, d'une sidération qui ressemblait beaucoup à celle qu'on partageait tous les autres juifs de France ou la presse juive française, puisque j'habite en France, que j'ai pu consulter. Donc ça a été la façon dont ils en parlent, par exemple, ils parlent de pogrom, le pogrom de Shmini Atzeret, ils parlent de massacre, ils parlent du Hamas comme d'un groupe évidemment terroriste, avec une histoire vraiment sinistre, comme de meurtrier cruel. Voilà, il n'y a pas de Il n'y a pas tellement, si vous voulez, d'ambiguïté sur leur émotion face à au massacre de juifs le 7 et le 8 octobre. Mmh.
Mais par exemple, la responsabilité du gouvernement, de l'armée israélienne, on le sait, les 7 mars sont critiques des institutions israéliennes. Les institutions israéliennes, certains diraient, ont une énorme responsabilité dans cet échec du 7 octobre. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent, les ultra-orthodoxes?
Alors, en tout cas, les ultra-orthodoxes de 7 mars, sur ce point-là, ils auront les mêmes critiques que d'autres. Alors, eux ne sont pas israéliens, si vous voulez, mais ils pourront relayer des critiques qui sont faites en Israël même, des rôles de l'armée ou des services secrets éventuellement. Mais eux, ils ne placent pas, si vous voulez, ils n'excusent pas ces meurtres de juifs en disant ils sont le fruit de l'histoire du sionisme, etc. C'est pas ça leur rhétorique. Mmh. Voilà, ils ne voient pas les actes du Hamas comme des actes amenés par l'histoire d'Israël et l'histoire du sionisme. En revanche, ils ne vont pas hésiter à déplorer les provocations. Comme par exemple les visites sur le Mont du Temple qui avaient été faites pendant la fête de Soukhot, la mois de Soukhot, en disant voilà, ces provocations, elles ont nourri la fureur meurtrière du Hamas fureur qui s'est déversée sur les Israéliens avec le déluge d'Al-Qod, les lancements de roquettes et puis les atrocités du 7 octobre. Mmh. Donc voilà, c'est plutôt... C'est plutôt des mises en garde aux juifs qui seraient tentés, surtout aux juifs religieux qui seraient tentés d'aller faire des provocations plutôt qu'une inscription dans l'histoire avec ils n'expliquent pas que les juifs sont responsables de leur propre assassinat. Voilà.
Et pour ce qui est, alors on sait que ce qui a la conséquence directe du 7 octobre, ça a été l'entrée de l'armée israélienne dans la bande de Gaza quelques semaines après le 7 octobre, l'armée israélienne est rentrée dans Gaza et encore aujourd'hui, quasiment 6 mois après, il y a des opérations en cours à Gaza. On s'apprête à débuter une opération militaire de grande envergure à Rafiah. Qu'est-ce que pensent les ultra-orthodoxes de ce sujet particulier qui sont les opérations militaires de l'armée israélienne à Gaza?
Alors là, en revanche, ils sont très clairement critiques. Et depuis le début, c'est-à-dire depuis le 10 octobre, ils sont très critiques. Mais parce que, pour le coup, ils sont toujours très critiques de l'emploi de la force par une armée juive. Et de toute façon, ils sont critiques de l'existence même d'une armée juive. Ce qui fait partie de leur pensée antisioniste ou non-sioniste de manière générale. Donc eux, ils vont être
Oui. Enfin, quel est le problème dans une armée juive?
Oui, alors eux, bon, c'est plutôt des arguments religieux qui sont mis en avant. Le groupe Satmar, c'est un groupe qui est pas très nombreux en soi, puisque c'est à peu près, ça doit être à peu près 20% de la population chassidique et que les chassidim font 5% de la population juive. Mais bon, c'est quand même un groupe assez important puisque par comparaison, les Lubavitch, c'est 13% de la population chassidique. Donc c'est quand même un groupe important. Maintenant, c'est un groupe qui se distingue effectivement par son antisionisme et c'est un antisionisme religieux qui a été développé par un rabbin très important dans ce mouvement qui est le rabbin Joël Teitelbaum, qui a émigré aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, qui a écrit un livre, le Vayoel Moshe, dans lequel il fait un récapitulatif de cet antisionisme religieux en analysant des textes du Talmud, notamment d'un traité qui est le traité de Ketubot, qui est exigent des Juifs qu'ils attendent la rédemption messianique pour retourner en masse en Israël, d'une part, et qui, d'autre part, interdit aux Juifs de provoquer les nations. Provoquer les nations, c'est assez général. Avoir un État, ça, c'est pas forcément provoquer les nations. En revanche, dépasser des frontières en dehors du droit international, ça, ça va être provoquer les nations, en particulier les nations arabes. Donc voilà, c'est pas seulement, si vous voulez, donc c'est un antisionisme qui est religieux plus que exclusivement en fait. Voilà. Et à l'intérieur de cet antisionisme, il y a aussi une opposition à la participation de juifs à une armée juive, puisque du coup, c'est interdit de retourner sur cette terre sans l'arrivée du Messie. Donc, il ne faut pas le faire par la force. Mmh. Donc, un juif ne veut pas participer à l'armée. Mmh. Voilà.
Et donc, leur critique envers, enfin contre l'action à Gaza est principalement religieuse. Est-ce que c'est sous-tendu quand même par une logique morale, le fait de pas verser de sang?
Oui, si vous voulez, leur morale est religieuse. Mm-hmm. Même leur humanisme est religieux. Mm-hmm. Donc, de toute façon, c'est des gens extrêmement pratiquants qui vivent dans un monde à 100% religieux. Donc, leur morale aussi est religieuse. Mais ils sont en colère. Ils sont pas tellement en colère contre les sionistes laïcs, en réalité, mais plutôt contre les sionistes religieux. Et je discutais aujourd'hui, d'ailleurs, avec un rédacteur d'un des grands journaux, cette marque s'appelle Derrid, qui m'expliquait une des grandes peurs en ce moment, dans le courant Satmar, c'est le fait que, avec la question de l'enrôlement des jeunes religieux dans l'armée, les groupes religieux, d'une manière générale, sont poussés dans les bras de la droite. Et la droite, eux, ils la trouvent extrémiste. Et la droite en profite, si vous voulez, pour gagner en puissance. Grâce à ces gens qui pourtant refusent de participer à l'armée. Voilà, donc ça c'est et vous voyez, donc là, il y a une opposition à la droite qui est une opposition politique et en même temps qui est une opposition religieuse. Maintenant, leurs vrais ennemis au sein du peuple juif, évidemment, leurs adversaires, ça va être les sionistes religieux plutôt que les sionistes laïcs. Les sionistes religieux sont leurs vrais adversaires.
Ils en ont beaucoup, par exemple, après Karine Ben-Gvir. Parce qu'ils font une interprétation différente de la Torah.
Exactement, et parce que ils les trouvent. En fait, ils pensent qu'ils mènent le peuple juif à la catastrophe, qu'ils vont faire monter les guerres, faire monter la haine contre les juifs dans le monde, qu'ils empêchent les relations pacifiques avec les autres nations, etc. Et donc, pour eux, c'est si vous voulez, c'est à la fois parce qu'ils ont une interprétation différente et parce que concrètement et pratiquement, ils pensent que ils mènent le peuple d'Israël sur un chemin dangereux. Et alors eux, c'est surtout eux qui vont vilipender, par exemple, dans leurs journaux, en notant effectivement des choses que des gens qui ne sont pas du tout religieux pourraient trouver choquantes aussi, hein, le fait de mélanger religion et politique et guerre, ça peut donner dans d'autres, parce qu'il y a d'autres journaux ultra-orthodoxes qui vont justifier la guerre, qui vont dire on peut même tuer des enfants parce que ça s'est déjà fait dans la Bible, etc. Ça, c'est le genre d'argument que les chassidines du groupe Satmar vont trouver absolument terrifiant et auxquels ils vont s'opposer parce qu'ils disent que c'est des interprétations erronées de la Torah.
Alors, vous parliez à l'instant de la droite et de cette récupération des communautés ultra-orthodoxes en Israël par la droite. Alors, on sait que l'argument de taille qu'a utilisé la droite quasiment depuis la création de l'État d'Israël, on peut discuter de combien était de droite Ben Gurion par rapport à Netanyahou, mais tout de même, l'histoire du statu quo, du fait de garder Shabbat et certaines règles de religion dans l'espace public. Et évidemment, le fait qu'il n'y ait pas d'enrôlement des ultra-orthodoxes à l'armée et que l'État fonde les yeshivot. Alors, on le sait, il y a un mois quasiment de ça, ce statu quo a été complètement bousculé, puisque la conseillère judiciaire de l'État israélien a déclaré qu'une loi qui interdirait ou qui empêcherait les étudiants d'Yeshiva de s'engager à l'armée était inconstitutionnelle. De cela, la conséquence a été que certaines yeshivotes, certaines écoles talmudiques ont été défondées, on leur a retiré l'argent qu'ils recevaient depuis. Comment les satmars antisionistes réagissent-ils à cette nouvelle ?
Oui, c'est vraiment une question essentielle en ce moment. Les satmars eux-mêmes ne sont pas touchés par la question dans la mesure où eux, leur yeshivot, de toute façon, elles sont financées par leur propre groupe depuis les États-Unis. Mais les satmars vivent normalement en bonne entente avec d'autres groupes de la Gouda qui, eux, participent à la vie israélienne, reçoivent des financements, notamment effectivement pour leur yeshivot, et votent. Et donc, c'est exactement ce que je vous disais, la crainte un petit peu dans l'espace médiatique satmar en ce moment, c'est que les juifs ultra-orthodoxes soient encore plus poussés à droite ou à l'extrême droite. Et une fois qu'ils sont à droite, si vous voulez, même c'est paradoxal parce que la droite leur promet le statu quo et donc de ne pas entrer dans l'armée. Mais la peur, c'est qu'une fois qu'ils sont à droite, ils acceptent du coup quand même de payer un tribut à l'État, d'envoyer quelques jeunes à l'armée, même si c'est pas forcément pour combattre, mais que petit à petit, la logique d'extrême droite monte dans ces groupes-là, qu'il y ait de plus en plus de familles qui aillent s'installer, par exemple, en Cisjordanie, et que donc il y a un extrémisme qui gagne ce monde qui jusque-là n'était pas dans cet extrémisme-là, puisque de toute façon, il était en dehors de l'armée et de la vie politique israélienne. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les satmars, mais je pense que ce n'est pas les seuls qui peuvent s'en inquiéter.
Vous pensez qu'ils pourraient se faire enrôler à un moment donné, les satmars ?
D'un point de vue, de façon individuelle, oui, il y a sûrement plein de jeunes garçons qui préfèrent de toute façon entrer dans l'armée plutôt que d'aller à la yeshiva, ou plutôt, ils vont pas du tout tous à la yeshiva, il y en a qui commencent à travailler, c'est un groupe c'est un groupe chassidique qui pour le coup s'autofinance et qui donc envoie tout le monde au travail. Les hommes travaillent, il y a plein de jeunes qui sont pas forcément très contents de leur famille, de leur vie, et qui préfèrent aller à l'armée, ou plein de jeunes qui peuvent être aussi intéressés par les idées sionistes du pays dans lequel ils vivent et qui pourraient tout à fait vouloir y aller. Ça, d'un point de vue individuel, c'est tout à fait possible. Après, que le groupe Satmar encourage l'enrôlement de jeunes, ça, je pense que je pense qu'on en est vraiment très loin.
Alors, une dernière question avant de terminer, Macha. Moi, je me souviens de cette affiche assez choquante en France de la liste antisioniste avec Dieudonné et sa fameuse quenelle. Il y avait, je pense, un rave Nettore Carta, si je ne me trompe pas, qui faisait partie de sa liste. Dieudonné, on sait qu'il est plutôt antisémite qu'antisioniste.
Tout à fait.
Mais il y a chez les antisionistes, qui peuvent être juifs ou pas d'ailleurs, la question du boycott d'Israël comme manière de mettre fin au conflit israélo-palestinien et de forcer Israël à trouver une solution plus qui aille dans la direction de la paix. Qu'est-ce que la communauté Satmar pense de cette question du boycott avant et après le 7 octobre ? Parce que j'imagine qu'il y a peut-être une différence maintenant.
Et merci pour cette question. Alors, je me permets peut-être de faire un tout petit point. Il y a vraiment une différence entre les Nettore Carta et les Satmar. Tout le monde est minoritaire. Là, on est chez des minoritaires de minoritaires, et les juifs eux-mêmes sont quand même minoritaires sur Terre, mais les Nettore Carta sont vraiment très, 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 très peu nombreux. Et en plus, ça fait des dizaines d'années, depuis les années 70, qu'ils ont été condamnés par les plus hautes autorités Satmar, justement pour leur proximité avec avec des ennemis du peuple d'Israël. Mmh. Voilà, donc c'est pas des groupes qui vont ensemble. Les Satmar, eux, dans leurs journaux, ils n'hésitent pas à dénoncer les débordements des manifestations pro-palestiniennes quand il y en a aux États-Unis, hein, mmh. puisqu'ils écrivent plutôt depuis les États-Unis, par exemple. Maintenant, pour cette question du boycott, ça c'est très intéressant. En fait, eux, ils ne prennent pas du tout un boycott politique des produits venant d'Israël. En revanche, ça n'a absolument rien à voir, mais les plus religieux d'entre eux évitent d'acheter des fruits venant d'Israël.
À cause
pas
de la
par boycott. Voilà, exactement. Donc, c'est une sorte de... Non, pas de boycott, mais de méfiance religieuse. Voilà.
D'accord.
Mais de boycott, non, ça, il en a jamais été question, et ni avant, ni après le 7 octobre.
Masha Fogel, je vous remercie pour cette analyse originale. On n'entend pas souvent parler de la communauté Satmar et de ses points de vue. Donc, on espère vous avoir de nouveau très vite dans notre programme. Et merci.
Merci beaucoup, Rachel, pour toutes vos questions sur ce monde mystérieux et assez fermé.
Bonne soirée.
Bonne soirée, au revoir.
Au revoir.